faucon de l'establishment sécuritaire israélien est devenu l'architecte d'un pari de paix avant d'être abattu par un extrémiste juif lors d'un rassemblement à Tel Aviv le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin. 30 ans après son assassinat, la politique israélienne reste prise entre deux scènes qui ne cessent de se répondre, la scène du crime et la scène du souvenir. Rabin demeure aujourd'hui un repère autant qu'un point de fracture, et les livres respectifs de Denis Charbit, Yitzhak Rabin, La paix assassinée, une mémoire fragmentée, paru aux éditions Jean-Claude Lasless, et de Michael Darmon, Les derniers jours d'Yitzhak Rabin, édition passé composée, reviennent chacun à sa manière sur ce moment pivot de l'histoire d'Israël, marqué par les circonstances de la mort de Rabin. Alors Michael Darmon revient sur les ressorts concrets des derniers jours du Premier ministre, l'itinéraire d'un crime politique, Oslo, l'escalade verbale, les menaces, un climat d'incitation, la défaillance de renseignement et les dilemmes sécuritaires, un passage à l'acte inscrit dans un écosystème idéologique. Et en suivant la trajectoire d'un chef militaire devenu artisan d'un possible compromis, il éclaire la chaîne des décisions qui ont rendu la paix pensable à l'époque et ce qui l'a entravé depuis. Alors dans son essai, Denis Charbit, lui, ausculte davantage la postérité de l'assassinat de Rabin, une mémoire institutionnalisée, étrangement institutionnalisée, mais fragmentée, comme il le donne le sous-titre de son livre, où l'école, la Knesset, la rue et la culture israélienne façonnent des récits concurrents, reconfigurés encore par le 7 octobre. Alors il suit, on pourrait dire, la vie après la mort de l'événement. Il propose une analyse des répercussions sociales en Israël et des tensions politiques qui persistent depuis, en explorant comment cet assassinat a été commémoré, politisé, intégré et parfois même effacé. C'est le de vos chapitres, Denis. Alors bonjour à vous deux, bonjour. Je suis vraiment ravi que vous soyez là tous les deux. Vous avez à la fois le même événement au centre de vos livres et en même temps des approches différentes, même si on pourrait dire tout ce qui est dans l'un et dans l'autre, mais pas dans les mêmes proportions et pas dans la même, sous les mêmes focales. Et donc ça sera passionnant de vous entendre discuter. Je voudrais que vous nous disiez ce que personnellement vous a poussé à écrire sur Rabin et son assassinat. Et j'ai envie de rajouter aujourd'hui, hein, 30 ans après, mais en fait, après le 7 octobre.
C'est vrai que c'est d'abord le souvenir d'une énorme émotion et d'un coup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer le récit comme cela. J'étais à l'époque dans ma période française à la télévision, au service public.
Vous étiez correspondant.
Après avoir été correspondant à Jérusalem, travailler pour TF1 et la RTBF. Et je suivais donc de près toute cette évolution des accords d'Oslo qui avait suscité un immense espoir que j'avais moi couvert à l'époque en étant correspondant de la télévision belge, la RTBF. Et puis après j'étais arrivé à Paris, à la rédaction à Paris, donc en 95 j'étais... Et ce soir-là, comme je dis, c'est encore l'époque où on avait les répondeurs. Et là, explose le répondeur, allume la télé, on a tiré sur lui, on a tiré sur Rabin, prépare ton passeport, viens, bon bref. La rédaction qui appelait, la rédaction de France 2, et immédiatement, en allumant la télévision, je me dis, de toute façon, c'est un juif qui a tiré. Je le savais parce que j'avais suivi aussi, comme nous tous à ce moment-là, l'ambiance autour des accords d'Oslo, autour de cette grande mobilisation de la part de ses adversaires et la manière dont effectivement cet espoir était battu en brèche à la fois du côté du Hamas et à la fois du côté d'extrême droite israélienne, prise en étau.
J'avais cette certitude.
Oui, parce qu'en fait, ce qui était frappant depuis ces derniers jours, c'était la puissance, l'omniprésence des manifestations qui jetaient l'anathème, qui traitaient Rabin de traître, qui le désignaient sur des pancartes déguisées en nazi ou en pseudo Arafat. Et donc, en fait, même si on est habitué à la virulence de la culture politique israélienne, là, je sentais quand même depuis quelque temps qu'on franchissait un pas. Les anathèmes religieux, kabbalistiques, qui faisaient de lui pratiquement, lui donner un décret mortel sur celui qui bradait la terre d'Israël. Donc tout ça, c'était... Et puis c'était mon judaïsme qui était frappé. Je veux dire, personnellement, à ce moment-là, il se passe une rupture aussi personnelle où je mets de côté tous ceux qui professent qu'il faut aimer son prochain comme soi-même si jamais on n'a pas été capable de protéger quelqu'un comme Rabin qui faisait la paix. Donc il y a eu un moment. 30 ans plus tard, on est dans ce que l'on connaît, dans la situation au Proche-Orient, et j'étais persuadé qu'on arriverait à une phase nouvelle dans cette guerre entre Israël et Hamas après le 7 octobre, et qu'il serait important de ressortir l'héritage de Rabin. Et j'ai voulu, à ce moment-là, repartir de cette scène, non, non pas vraiment en tant que journaliste, mais aussi avec quelqu'un qui a aussi un peu un recul du récit, sur le récit historique, puisque ce qui était frappant maintenant, c'est que quand on observe la scène de la fameuse poignée de main entre Arafat et Rabin sur la pelouse de la Maison Blanche, le 13 septembre 1993, aujourd'hui on sait qu'il n'a plus que 2 ans à vivre ce jour-là. Et donc c'est ce compte à rebours tragique que j'ai voulu revisiter en revisitant l'Israël de l'époque et tout le contexte.
Bah, alors vous avez dit ressortir l'héritage de Rabin, ça veut dire là ça m'emmène directement sur le point central de votre livre, Denis, à savoir l'idée que l'héritage de Rabin, eh bien, il va pas de soi en Israël. Il est controversé, il fait l'objet de polémiques, là où on pourrait penser que la mort de Rabin aurait suscité une sorte de récit national, et ben pas du tout. C'est le lieu de division infinie. Et je pense que c'est ça qui vous motive au premier chef, d'essayer de revenir sur cet héritage extrêmement complexe.
Tout à fait. Alors, je ne serai plus terre à terre. Moi, c'est Charlotte Rousseau des éditions Lattès, qui est à la tête d'une collection qui s'appelle Memento, et dont le principe est de considérer que pour comprendre un événement historique, il faut bien sûr le relater, mais pas s'y concentrer exclusivement, mais il faut interroger sa postérité. Et donc, elle m'appelle en me demandant est-ce que je... Et je relève le pari avec d'autant plus d'assurance que, voilà, on vit quand même, enfin, pour moi en tout cas, entre février 2025 et septembre 2025, lorsque je remets définitivement la dernière mouture de manuscrit. Pour moi, en tout cas, ce sont les heures les plus graves, j'ai envie de dire les plus sombres de l'histoire de l'État d'Israël. Hein. On parle de famine, on parle d'épuration ethnique, Gaza Riviera, etc. Et le contraste, alors entre les personnalités, on en parlera sans doute, entre Netanyahou qui est aux antipodes de Rabin, de même que Rabin est aux antipodes de Netanyahou en termes de leadership, de manière de s'exprimer, de concevoir le pouvoir politique. Quand on étudie la décennie qui suit, la décennie qui vient, et puis depuis 2023, alors là, on se rend compte que voilà, il y a une conjonction de mémoire que j'essaye d'élaborer à travers, comme vous l'avez dit, la classe politique, l'école, puisque ça, il faut peut-être le préciser, on établit une loi mémorielle, hein, et on est déjà sous Netanyahou en 1997, et c'est pas la première, c'est pas la dernière, mais c'est la seule parmi les lois mémorielles, Menachem Begin, David Ben-Gurion et tant d'autres, et quelques autres, c'est la seule qui oblige le système scolaire, donc l'éducation nationale, a imposé une journée de recueillement, de discussion, une journée de commémoration à l'école. Et ce que j'analyse, donc également à l'école, pas simplement dans la classe politique, c'est comment ça se commémore, sachant que, ça, les lecteurs français ne le savent pas beaucoup, que le système scolaire est divisé. Il n'y a pas que la société qui est divisée, il n'y a pas que la classe politique qui est divisée. L'école est divisée. Il y a l'école arabe pour la population arabe et druze, il y a l'école juive publique religieuse, et puis il y a l'école publique laïque pour ceux qui ne sont pas pratiquants, plus le secteur orthodoxe. Et donc, j'analyse et je vois comment, en 30 ans, on est passé d'une presque hyper-présence, omniprésence, presque obsessionnelle. On a beaucoup ironisé à l'époque sur le fait qu'on avait tout baptisé Rabin. Oui. L'autoroute Rabin, l'hôpital Rabin, le boulevard Rabin, tout le monde a... Voilà. Et on passe progressivement après cette hypermnésie, hein, cette mémoire presque obsessionnelle qui donnait presque, pour certains, et j'en parle, hein, un peu un sentiment d'overdose. Ça, c'est les années 95-2000. Et puis... 2000 arrive, la seconde intifada, et puis surtout, il ne faut pas l'oublier, j'en parle bien sûr longuement, 6 mois, pourquoi cette mémoire est aussi complexe? Parce que 6 mois après, c'est l'adversaire de Rabin qui est au pouvoir, et j'ai envie de dire, et c'est là le lien avec l'actualité, et en ce sens, bien sûr que je prends les choses jusqu'au bout, 30 ans après, c'est non seulement Netanyahou qui est toujours au pouvoir, l'adversaire de Rabin, celui qui finalement ne s'identifie pas avec le crime commis par Galamir, mais embrasse bien sûr des deux mains le résultat, c'est-à-dire l'arrêt du processus d'Oslo, et puis c'est aussi Itamar Ben-Gvir qui fait sa première apparition médiatique, jusque-là on ne le connaît pas, lorsque quelques mois avant l'assassinat en novembre 1994, il se saisit, j'ai appris qu'on disait l'ornement de capot, le symbole de la Cadillac du Premier ministre, et il déclare, et on le voit à la télévision pour la première fois, en disant, si j'ai atteint ce symbole, nous atteindrons Rabin. 30 ans après,
il est au pouvoir.
Il est au pouvoir, il est ministre de la pas de la santé ou du logement ou de quelques ministères que ce soit, non, ou des cultes, non, ministre de la Sécurité nationale.
Mais c'est plus que ça, comme, quoi. C'est, voilà. C'est lui, effectivement, qui est là, c'est effectivement très impressionnant, et quand on retrouve cette scène, c'est vraiment frappant de voir à quel point cette évolution, elle fait qu'elle a intégré, au fond, ceux qui ont soutenu et incité Yitzhak Rabin à être assassiné, qui aujourd'hui sont au pouvoir. Et puis également l'autre acteur qui a télescopé et pulvérisé les accords, le Hamas, est là également. Donc en fait, 30 ans plus tard, vous avez les mêmes acteurs sur la scène qui sont là et qui, au fond, contribuent aussi effectivement à effacer cette mémoire qui, au début, même on parlait de festival Rabin, hein, sur toutes les commémorations qui allaient dans tous les sens. Et puis après, ça s'est tellement fermé, tellement rejeté, même à tel point que en 2017, quand Yuval Rabin, le fils d'Israël Rabin, fait sur le Mont Herzl son discours pour la commémoration, il a face à lui Netanyahou, et là, il le rend dans une colère noire, et il fustige effectivement Netanyahou, il le rend responsable d'effacer la mémoire de son père, et plus que ça, il le rend responsable, et vous l'avez évoqué, hein, les rapports au pouvoir totalement différents, il dit, en fait, mon père n'a jamais poursuivi qui que ce soit pour avoir été critiqué. Et Dieu sait, dit-il, s'il a été critiqué avec violence et virulence. Jamais il acceptait de poursuivre un journaliste ou de protester face à un journaliste. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'était plus que tout. Il fait aujourd'hui, disait-il, on choisit les journalistes, on choisit les bonnes œuvres. Il y avait à l'époque une polémique avec la ministre de la Culture qui décidait quelles œuvres seraient financées ou pas selon le fait que ça rentrait en phase avec la matrice du pouvoir. Et tout cela, c'était ce que moi j'ai aussi raconté, parce que je ne me suis pas uniquement focalisé sur l'événement, mais j'ai raconté ce que j'appelle Israël englouti, c'est-à-dire le grand remplacement de ce sionisme souverainiste et humaniste par un sionisme messianiste et fondamentaliste. Et ça, c'est l'articulation, pour moi, principale qui a amené aussi à la tragédie vis-à-vis d'Yitzhak Rabin. C'est-à-dire que celui qui gagne la guerre des six jours en 67 en tant que chef d'état-major, Yitzhak Rabin, fait en sorte que les territoires de la Bible reviennent dans l'État d'Israël, parce qu'ils étaient sous contrôle jordanien depuis 48. Et les enfants de ces territoires-là, qui ont créé ce sionisme messianique, eh bien, un de ses enfants est allé tuer celui qui avait gagné la guerre en 67. C'est le deuxième focal tragique vis-à-vis d'Yitzhak Rabin qui est vraiment le sismographe des grandes émotions collectives de ce pays, même si, effectivement, c'est intéressant d'avoir montré à quel point cette mémoire, elle est difficilement, inscrite dans le narratif national. Dalia Rabin aussi, que je rencontre pour ce livre, Isaac Herzog, que je rencontre pour ce livre, me le disent. C'est difficile de parler d'Yitzhak Rabin depuis des années.
Mais il faut expliquer, c'est pas difficile de parler d'Yitzhak Rabin et de sa biographie, je dirais même, c'est ce qu'on fait à l'école, notamment, ou même dans les discours convenus qu'on prononce, qu'on va prononcer aujourd'hui, cet après-midi, à la Knesset, Netanyahou, Yair Lapid, chef de l'opposition, puisque c'est ça le protocole de la commémoration officielle. Parler d'Yitzhak Rabin, c'est très facile. Parler de son expérience ministérielle, ministre de la Défense, Premier ministre, c'est très facile. Ce qui est inconcevable, on peut même parler de l'assassinat, de ce point de vue-là, pour dire qu'il y a des règles à respecter en démocratie et on ne pratique pas l'assassinat politique. Qu'est-ce qui fait problème ? Il y a deux choses qui font problème. Le premier, encore une fois, c'est que on condamne bien sûr le geste, mais on s'associe et on s'identifie implicitement au résultat recherché. Or ça, regardez tous les assassinats politiques, en général on dit l'homme est mort, mais l'idée a triomphé. Là, l'homme est mort et l'idée se porte mal. Se porte pas très bien. Et puis il y a un deuxième aspect qui est problématique, c'est que il n'a pas été assassiné parce qu'il était intègre, il n'a pas été assassiné parce qu'il a remis sa démission lorsque sa femme a été soupçonnée d'avoir conservé un compte en banque aux États-Unis. Il n'a pas été soutenu parce qu'il a fait une politique sociale ou éducative ou autre chose. Il a été assassiné parce qu'il a fait une révolution copernicienne qui consiste à dire, pour résoudre le problème israélo-palestinien, il faut des Israéliens et il faut des Palestiniens. Jusque-là, jusqu'à Rabin, c'était on va faire la paix, on va résoudre le problème israélo-palestinien avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec l'Arabie Saoudite, pas avec les Palestiniens. Et Netanyahou est allé beaucoup plus loin, puisque depuis 2014, Et je ne veux pas rentrer dans la discussion, est-ce que c'est ça qui a entraîné le 7 octobre ? C'est un autre débat. Mais depuis 2014, il n'y a plus de négociations officielles entre le gouvernement israélien et quelques représentations palestiniennes que ce soit. Et on a bien vu l'obstination de Netanyahou à ne pas vouloir privilégier au moins l'autorité palestinienne pour mieux affaiblir le Hamas. Au contraire, il a même fait tout à fait...
Et c'est d'autant plus remarquable qu'en réalité, ce qu'on voit à travers les textes et ceux qui l'ont accompagné durant toute cette période des accords d'Oslo, c'est qu'en fait, il se méfiait des Palestiniens. Il préférait négocier avec des chefs d'État installés. Parce qu'en parallèle, il négociait avec la Syrie.
Ouais, c'est ça,
et que sa priorité, c'était la Syrie. Mais comme c'est un homme politique pragmatique, comme il a compris que Shimon Peres avait déclenché, de son point de vue, les discussions avec Oslo...
Et il a été dur à convaincre, d'ailleurs.
Il a fallu le convaincre, mais comme c'est quelqu'un, effectivement, qui avait... C'est la capacité de comprendre beaucoup de choses en même temps, et en particulier l'opportunité politique, il s'est dit, à ce moment-là, on va aller créer ce moment de confiance avec les Palestiniens, même s'ils continuaient à négocier avec les Syriens, et qu'il a fait la paix aussi avec les Jordaniens. Et de ce point de vue-là, c'était un moment très étonnant, parce qu'il comprend qu'il doit arriver à créer cette confiance avec les Palestiniens, alors qu'en réalité, il pensait, lui, sa grande formule, c'est de dire « quand les Syriens signeront, les Palestiniens vont courir », parce qu'en fait, ça créera une dynamique plus importante. Mais il a ensuite, effectivement, été celui qui a sidéré l'opinion israélienne en allant serrer la main de Yasser Arafat. Là aussi, il a fallu le convaincre. Mais le fait qu'il ait accepté de le faire montrait justement, et une fois de plus, c'est effectivement important de montrer à quel point Netanyahou et Rabin incarnent deux Israël, en fait. À quel point il y avait cette capacité de pouvoir réfléchir sur la place d'Israël dans la nation. Pourquoi ? Parce que ce qui m'a aussi frappé, et c'est pour ça que ça m'a intéressé de travailler sur cette matrice humaine, c'est que Rabin, c'était le premier Sabra, premier ministre. Et ça change tout. Lui, il n'a jamais fui les antisémites. Il n'a jamais subi. Il est né à Jérusalem. Il a défendu son pays pour pouvoir aussi lui donner sa place. Donc il avait une vision moins doloriste de l'histoire juive. Et dans ses discours, ça montre d'emblée son corpus, qui était de dire « nous ne sommes pas une forteresse assiégée, nous avons notre place parmi les nations ». Et c'est avec cela qu'on créera la confiance. Et c'est en ça que c'était porteur d'un espoir absolument formidable.
Je voudrais revenir parce que, autant, je l'ai dit moi-même tout à l'heure, Rabin c'est l'anti-Netanyahou, Netanyahou c'est l'anti-Rabin, autant sur la question effectivement des négociations et du processus de paix, effectivement, et c'est pour ça, à propos de la mémoire fragmentée, c'est pour ça que la gauche n'en a pas fait non plus un mythe. D'abord parce qu'au moment où il est assassiné, le processus de paix n'est pas encore irréversible. On n'a fait qu'un accord d'autonomie et on a dit, c'est tout ce que dit Rabin, les gens ne lisent pas les déclarations de principe d'Oslo, on dit dans 5 ans on va discuter de tout. C'est tout ce que ça dit. On ne dit pas on gèle les implantations, etc.
Non, c'est un processus.
Okay, voilà, c'est un processus. Et pourquoi je dis cela ? Pourquoi ça montre bien que de ce point de vue-là, il était beaucoup plus timide et presque timoré, je me permets de ce point de vue-là, presque de le critiquer, j'en fais pas un saint. Hein. C'est parce que dans le récit que tu as fait de la Syrie, c'est pas simultanément. Il essaye la Syrie parce qu'effectivement, il préfère discuter avec des chefs d'État. Et puis, comme tu l'as dit, il vaut mieux traiter le problème réellement le plus compliqué une fois qu'on a fait la paix avec tout le monde. La Jordanie, la Syrie éventuellement. Et qu'est-ce qui se passe ? Il rencontre avec l'émissaire, avec Clinton interposé. Et à un moment, c'est... Il faut tout lâcher, tout le Golan. Et Rabin recule, il dit, attention, c'est là que la campagne commence, d'ailleurs, avant la campagne contre
Rabin. Il dit, je souhaite bonne chance au Premier ministre qui devra négocier avec le Golan.
Exactement.
Donc, comme s'il se parlait à lui-même déjà en disant, exactement, ça va être très compliqué.
Et il y a donc toute la campagne à Amima-Golan, et il sent qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à lâcher tout le Golan. Et donc, il se dit, non, mais avec les Palestiniens, ça va prendre du temps, puisque ça va être étape par étape. Donc, finalement, ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un réformiste, mais néanmoins, on ne peut pas lui retirer sans en faire un apôtre de la paix. Ce n'est pas un pacifiste, ce n'est pas quelqu'un qui culpabilise sur la tragédie palestinienne. Seulement, il dit, finalement, il est de bon sens de penser que la paix, c'est avec concernant la Palestine, c'est avec la Palestine, avec les Palestiniens qu'il faudra le faire.
J'ai une dernière question parce que à vous poser. Oui. C'est, vous avez parlé du passage d'une sorte d'hypernésie à amnésie. Et à la fin du livre de Michael, il cite des mots que lui a dit Dalia Rabin.
Oui.
Et il dit, elle lui dit, elle note, vous notez, qu'on se pose la question aujourd'hui de « mais qu'aurait fait Rabin le 7 octobre ?»« Qu'aurait fait Rabin après le 7 octobre ?» Comme si une sorte de fantôme revenait sur la scène publique.
Oui.
Et elle dit qu'elle repère une nostalgie pour un homme compétent, intègre, à une époque où on a le sentiment que ça manque en Israël. Donc, est-ce qu'on serait maintenant, en ce moment, les contemporains d'un retour et d'une nostalgie, vous pensez ça ?
Nostalgie, je dirais pas. Mais en revanche, je vais vous dire ce qui a changé pour ce qu'on appelle le camp de la paix. Je ne dis pas qu'il s'est renforcé après le 7 octobre, mais il a retrouvé une pertinence qu'il n'avait pas avant le 7 octobre. C'est-à-dire, pour être très clair, avant le 7 octobre, le camp de la paix, c'est des has-been, c'est vous y croyez encore, mais le monde entier s'en fout, mais les pays arabes font les accords d'Abraham, et ils savent bien qu'ils sans tenir compte de la question palestinienne. Donc on est regardé un peu comme des bizarres, voilà, des animaux, une espèce en voie de disparition. Après le 7 octobre, certes, sans doute, on va dire, électoralement parlant, ce camp-là est peut-être plus affaibli, mais il a retrouvé une pertinence. Et je dirais que pour moi, le signe le plus significatif, c'est la manifestation de samedi soir dernier. Pourquoi ? D'abord, depuis 2019, il n'y en avait plus. La municipalité de Tel Aviv a dit, moi je ne veux pas de manifestation politique, il faut que ce soit consensuel. C'était des concerts, 2019, les gens disent, c'est pour un concert, j'ai pas besoin de la commémoration de Rabin. Samedi soir, il y avait un peu de concert, il y avait un peu de chansons, etc., bien sûr, mais c'était tous les leaders de l'opposition, sauf Bennett d'ailleurs, parce que Bennett n'est pas tellement à sa place. Il faut, je vais me permettre une comparaison très, très dure. Bennett et Netanyahou, dans leur discours à la Knesset que j'analyse dans le livre, ils font exactement, retenez-vous bien, comme Hamdani à propos du 11 septembre. Quand on lui demande c'est quoi le 11 septembre, il dit pas c'est terrible, c'est 2000 morts. Il dit ma tante ne pouvait pas se balader avec un hijab. Okay, avec un voile. Ben, c'est exactement ce que Bennett dit, et je cite, hein, c'est pas moi qui interprète, Netanyahu qui dit « Ah, après l'assassinat de Rabin, les religieux et les gens de droite rasaient les murs, on était tenus pour assassins. » Je ne nie absolument pas qu'ils ont vécu une telle expérience. Mais c'est ça l'assassinat de Rabin ? C'est le fait qu'on n'ose pas, qu'on a enlevé sa kippa pendant 15 jours ou 3 semaines de peur d'être soupçonné d'être un acolyte d'Yigal Amir ? Voilà. Ben, je dirais que ça, aujourd'hui, la mémoire... Enfin, la manifestation, c'était la première fois que c'était plus une manifestation consensuelle. On n'est plus là pour dire Rabin était intègre, Rabin a fait le palmar, Rabin a été le chef d'état-major de la guerre 6 jours. Rabin a fait la paix avec les Palestiniens et c'est ça qu'il faut reprendre à zéro, c'est sûr. Il faut un partenaire, à nous de susciter ce partenaire.
Oui, la question était souvent posée par des experts militaires et effectivement, j'en ai parlé avec Dalia Rabin, sur... Comment Yitzhak Rabin se serait comporté après le 7 octobre. Et moi, je pense qu'en fait, la question le concernant, c'est comment il se serait comporté avant. Parce qu'on ne pourra pas, au fond, continuer, et ça viendra un jour, j'espère, les militaires l'ont déjà fait, mais aller plus avant sans décortiquer ce qui s'est passé. Or, ça restera quand même aussi... un énorme dysfonctionnement des services de renseignement, comme il y a 50 ans, pour d'autres raisons, dans un autre contexte. Mais ce que Rabin, lui, avait en tête en permanence, c'était l'anticipation. C'est parce qu'il a réussi à vendre la doctrine de l'attaque préventive en 67 au gouvernement et à l'imposer à l'armée qu'il y a cette attaque sur l'aviation égyptienne au préalable et que cette guerre peut se régler comme elle s'est réglée en 6 jours. Or, tous les signaux faibles, toutes les sources ouvertes qui ont été ignorées, mal analysées, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, ce n'est pas le cadre maintenant, mais tout ce qui a été non analysé et mis de côté et pas vu par les services de renseignement, je pense que quelqu'un comme Rabin, s'il avait été en situation, eh bien, il les aurait analysés, il les aurait vus et il aurait mis en place un mode de fonctionnement anticipé parce qu'il y aurait eu la vision de tout ce qui arrive là n'est pas pour rien.
Je vais être plus droit au but que toi si tu me le permets.
Oui, je t'en prie.
Je pense que si Rabin avait été Premier ministre le 7 octobre, il aurait déclaré « je mènerai la guerre jusqu'au bout, une fois la guerre terminée, je démissionne ». C'est ça la différence entre Netanyahou et Rabin.
Ça c'est absolument très net, il l'a fait pour beaucoup moins que ça. Golda Meir l'a fait alors qu'elle a été lavée par la commission d'enquête après la guerre de Kippour, ce qui montre bien l'argument qu'on peut donner aussi au Premier ministre israélien, c'est qu'une commission d'enquête a priori ne décide pas, comme il le dit, puisqu'on voit bien que Golda Meir, c'est le contre-exemple. Elle a été lavée par la commission, mais elle a décidé quand même de démissionner, parce que c'est une question d'éthique politique. Et là, évidemment, ça ouvre une autre question.
À cet égard, j'ajoute une anecdote. Quand il donne l'ordre d'Entebbé, il fait écrire par son aide de camp, son attaché militaire, une lettre. Si l'opération à Entebbé échoue, tu publies la lettre et c'était une lettre de démission. Oui. C'est ça, là, la différence de conception de la responsabilité.
Ce qu'il avait dit à sa
si
femme.
J'échoue, je démissionne. Là où, voilà, Netanyahou, c'est une autre culture politique. Et je dirais d'ailleurs, de ce point de vue-là, et on le voit en ce moment avec ce qui se passe depuis quelques jours, la différence entre la gauche, le centre, l'opposition et le pouvoir, c'est que le pouvoir, il vit dans un système de loyauté. On reste loyal même envers les brebis galeuses. Au sein de la gauche, quand il y a une brebis galeuse, on le renvoie, il démissionne, on le met à la porte, c'est terminé, t'as trahi. C'est deux conceptions différentes de l'ordre politique.
Rabin, c'était l'éthique en politique, c'était effectivement un grand exemple.
Bon, je vous remercie vraiment pour ce dialogue entre vous deux. J'ai été ravi d'y assister. Et évidemment, je pense que tous ceux qui vous auront entendu auront envie de prolonger en lisant les livres qui développent tout ce que vous nous avez amené dans cette discussion. Donc je rappelle le livre de Denis Charbit, Yitzhak Rabin, La paix assassinée, une mémoire fragmentée chez Jean-Claude Lattès, et le livre de Michael Darman, Les derniers jours d'Yitzhak Rabin aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup vraiment
merci,
à vous
merci
deux.
Merci à vous.
Merci Michael. Merci.